Et si je vous emmenais avec moi dans la magie de Madagascar, avec les joyaux de Madagascar, votre source de soins naturels exceptionnels. Rendez-vous sur huiledemadagascar.fr et utilisez le code MALABARY10, MALABARY10 en chiffres, pour profiter d'une réduction de 10% sur votre panier jusqu'au 31 octobre. Alors n'attendez plus, découvrez les trésors de Madagascar dès aujourd'hui. Et maintenant, place à l'épisode. Manaono, salam, bienvenue sur Malabar. Je suis Simbach, je suis l'hôte du podcast Malabar. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la vanille de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Montage et réalisation de chaque épisode, Maillé, Rami Prod, je vous mets tous les liens dans les notes de chaque épisode. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Louvre, comment vas-tu?
Bonjour Samad, ça va bien et toi?
Ça va bien, merci. Bienvenue sur Malabar. Aujourd'hui, on va tous les deux avoir une discussion autour de ISIC, qui est la structure que tu as fondée il y a maintenant un peu plus d'un an. Avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes aux auditeurs.
D'accord. Alors, je m'appelle Louvoman. J'ai 34 ans. Je réside à Madagascar actuellement. Pour ma part, j'ai fait des études de droit public. Et ensuite, après mes études de droit, donc j'ai eu mon premier travail. Je travaillais dans le secteur aérien pendant plus de 5 ans. Et c'est à l'issue de cette expérience que j'ai pu poursuivre mes études à l'étranger, entre la Bulgarie et la France, où j'ai étudié à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et pour des études d'économie internationale, parcours de transports internationaux. Donc après ça, après mes expériences à l'étranger, donc je suis revenu à Madagascar, c'était en 2022. Et de là où j'ai créé donc l'organisation dont tu as mentionné, ISIC. Et voilà en gros mon petit parcours.
D'accord. Alors, tu dis petit parcours avec beaucoup de modestie, mais je trouve que c'est déjà beaucoup parce que tu viens de Mada, t'es allé en France, t'es allé en Bulgarie. Alors, raconte-nous la Bulgarie parce que c'est pas tous les jours qu'on entend un gars qui va en Bulgarie. Donc, raconte-nous un peu comment c'était. Est-ce que t'as croisé des gars aussi d'ailleurs?
Ah oui, la Bulgarie, c'était vraiment une surprise parce que moi, je pensais jamais aller en Bulgarie. Mais voilà, Bulgarie, au début, on avait des appréhensions. Hein. On est habitué à aller en Europe de l'Ouest, mais l'Europe de l'Est, pas du tout. Donc, une fois là-bas, au tout début, c'était un peu difficile de s'adapter, mais après, ça va. C'était la même vie que, bon, disons pas que c'était la même vie, mais comme à Madagascar, c'était calme. La capitale, c'était calme. Et aussi, on a rencontré des malgaches, plus précisément. On avait notre joueur national, le capitaine Abel Anissé, qui était là-bas. Donc, on se voyait un peu souvent. Et voilà. Donc, c'est la Bulgarie, en tout cas, c'est un beau pays. J'ai habité à Sofia, c'était une belle ville que je recommande, en tout cas. Et voilà, c'était une expérience enrichissante en termes de vie en tant qu'étudiant et aussi en tant que personne, parce que j'ai rencontré aussi des personnes très humaines là-bas.
Et la culture bulgare, les Bulgares, ils sont comment?
Ils sont, en fait, ils sont ouverts. Ils sont ouverts d'abord. En fait, ils sont curieux aussi parce que c'est pas aussi la première fois qu'ils vont voir un malgache arriver en Bulgarie. Et le seul malgache, comme je l'ai dit, c'était le joueur de foot. Donc, ils sont curieux. Ils sont des gens curieux. Ils veulent savoir Madagascar, c'est comment. C'est la première fois qu'on voit un malgache. Et aussi, ils sont très, disons, joyeux. La culture, elle est, ils ont une culture assez, assez différente, en tout cas, de ce qu'on voit en Europe de l'Ouest, par exemple, ou en Afrique. Mais c'est une culture très intéressante. Il y a une mixité entre, bon, il y a la culture bulgare, on peut voir aussi la culture grecque à côté, ou les Balkans de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale. Donc c'est une mixité en termes de culture qui est très intéressante en tout cas.
D'accord. Et tu t'échangeais avec eux, j'imagine, en anglais?
Ah oui, c'était en anglais. Les Bulgares ne parlent pas trop français, donc on devait parler, on en discutait en anglais. En tout cas, quand on était là-bas, on essayait d'apprendre quelques mots, la base, quoi. On disait bonjour, au revoir, etc. Donc c'est pour mieux communiquer. En plus, les Bulgares, quand ils entendent un étranger parler quelques mots en bulgare, ils sont très ravis, ils sont très contents. Ils parlent pas forcément anglais. Bon, la jeunesse parle plus anglais, mais il y a l'ancienne génération qui parle pas forcément anglais. Donc, la communication, c'était pas trop compliqué. Au début, c'était compliqué, mais après, ça va.
D'accord, super. En tout cas, ça a été une expérience enrichissante pour toi, et tu recommandes à 100% du coup la Bulgarie.
Ah oui, je recommande à 100%.
Super. Et donc, tu nous disais que tu avais fait des études de droit. Alors, avant de parler de ICIC, parce que je pense personnellement que tes études de droit ont beaucoup influencé la création de ICIC, mais tu nous diras après ton point de vue là-dessus. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait en droit, parce qu'en général, le droit, tu vois, tout de suite, quand tu dis que tu as fait des études de droit, c'est très abstrait, mais en même temps, tout le monde connaît. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté? Et puis, tu disais qu'après, tu étais allé à la Sorbonne pour continuer en droit public. Et pourquoi tu as choisi la filière droit public?
Alors, en fait, après mon bac, je voulais faire droit depuis le début, parce que tu vois, à Madagascar, dans la famille, quand il y a quelqu'un qui fait du droit, forcément, tu prends cette voie-là. Donc moi, j'ai pris cette voie-là, pas parce que j'avais pas le choix, mais c'était vraiment mon choix de le faire. Donc j'ai fait les études de droit public à Madagascar. J'ai eu le master. Et ensuite, bon, master, j'ai passé des concours, mais malheureusement, j'ai pas réussi. Donc, c'est à ce moment-là, j'ai passé 2 ans, j'ai traversé un vide, un désert pendant 2 ans, et après, je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut travailler, il faut trouver quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai atterri dans le transport aérien pendant 5 ans. Et tout début, quand tu passes de droit à transport, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc, mais en tout cas, c'était une expérience enrichissante. Après, quand j'étais dans le transport, je me suis dit qu'à un moment donné dans ta vie, tu vois que tu stagnes un peu, que tu aurais aimé faire ce que tu voulais faire au tout début. Parce que quand je faisais du droit, moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment participer à quelque chose qui a du sens pour moi, c'est-à-dire que ce soit entrer en tant que fonctionnaire ou travailler dans des structures qui aide les citoyens, etc., à porter pour la chose publique. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'occasion. Donc, je suis parti aller en Europe pour étudier, pas le droit, et là encore, c'est autre chose. J'ai étudié l'économie internationale, parcours transports internationaux. Mais une fois arrivé en Europe en 2019, ben, 2 mois après, c'est la COVID. Donc, c'était très, très compliqué pour trouver même un stage, etc. C'était compliqué. Et après, je me suis remis en question. Je me suis dit que bon, là, actuellement, il faut que je fasse ce que j'aimerais faire. Donc, quand je suis revenu à Madagascar, donc là, le côté droit, il est revenu. Donc, quand j'ai créé l'organisation, le droit m'a vraiment aidé à comprendre beaucoup de choses quand j'ai créé l'organisation. Donc voilà, c'est un peu un parcours assez, je sais pas si c'est atypique ou mais c'est un parcours, je pense, qui m'a aidé aussi à forger, parce que en passant du droit à l'économie et au transport, je pense que j'ai eu pas mal d'expériences sur certains sujets que je regrette pas en tout cas d'avoir eu ce parcours-là, parce que c'est grâce à ce parcours que je suis là où je suis actuellement.
Tout à fait, mais je suis totalement d'accord avec toi, et c'est pour ça que je te demande un peu plus de détails sur ta filière droit, parce que je pense que le droit, c'est une filière qui permet en fait de comprendre aussi comment sont organisés les États, comment cela fonctionne, qui a le pouvoir, comment tu obtiens ce pouvoir. Et en fait, tout ça te permet de comprendre pourquoi il y a des lacunes dans certaines organisations.
pourquoi il y en a d'autres qui fonctionnent très bien et comment on peut améliorer ce qui ne fonctionne pas. D'où la création de ISIC, je pense. Mais déjà, est-ce que toi, tu as toujours eu cette ambition de travailler ensuite à Madagascar, parce que tu as quand même pas mal voyagé, tu es allé en Bulgarie, tu es allé en France, tu avais peut-être l'opportunité d'aller ailleurs, mais tu as quand même décidé de retourner à Madagascar. Donc ça, c'est déjà une très belle ambition, parce que tu aurais pu être parmi ceux qui ont ceux qui font partie du phénomène fuite des cerveaux et qui partent ailleurs. Toi, tu as décidé de revenir, pourquoi ?
Alors, oui, ça c'est la question qu'on te pose souvent quand tu arrives à Madagascar, mais pourquoi tu es revenu? Et moi, je faisais partie, au tout début, j'avoue, au tout début quand je suis parti de Madagascar, je pensais pas forcément à me dire « Ah, je vais revenir à Madagascar à telle ou telle date ». Mais quand j'étais là-bas, au moment de la Covid, en fait, je me suis aperçu que le pays faisait face à plus de difficultés qu'il y en avait auparavant. Donc ça c'était un peu flagrant. En plus, quand on discutait avec moi, quand j'étais en Europe, je côtoyais beaucoup de nos amis d'Afrique. Donc on discutait en fait de ce qui se passait dans nos pays respectifs, et je me suis rendu compte en fait que la jeunesse africaine, surtout dans d'autres pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, en fait, ils sont très engagés dans le développement de leur pays, en menant des actions peut-être petites, mais qui ont de gros impacts. Donc moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi moi, si je suis ici, pourquoi ne pas revenir au pays, apporter en fait cette petite expérience que j'ai eue pour pouvoir apporter des solutions à des problèmes, que ce soit sociaux, plus précisément. Donc ça, c'est la raison principale. Je me suis dit que moi, en tant que citoyen malgache, j'ai pour obligation de participer au développement du pays. Et bon, moi, je suis revenu. Il y en a, par exemple, ils sont encore à l'étranger actuellement, mais qui ont l'occasion de participer comme tu le fais actuellement. C'est un moyen de participer aussi, de mettre en valeur les choses positives de notre pays. Donc chacun, je pense que chacun a eu son trajet. Moi, j'ai choisi de revenir et être en contact direct avec les citoyens à Madagascar, parce que c'est vraiment l'objectif aussi de l'organisation, c'est qu'il faut être sur le terrain pour discuter avec les gens.
Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et donc après toutes ces expériences, tu décides de travailler, de fonder ISIC. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ISIC, et ce que ça veut dire aussi, et pourquoi tu l'as créé?
D'accord. ISIC, donc c'est nous en malgache, donc tout est dans le nom, je pense. ISIC, au tout début, quand je suis arrivé à Madagascar un mois après, j'ai eu l'idée en fait de créer ISIC. C'était un projet au tout début, et il fallait mettre ça sur le papier, donc j'ai fait des dossiers, etc. Et un jour, j'avais eu l'occasion, en fait, quand je regardais sur LinkedIn, il y avait donc une structure en France qui s'appelle CFI Media, qui lançait un appel à projet pour des projets innovants sur la civic tech. Donc ISIC cadrait en fait à leur appel, parce que ISIC, je vais l'expliquer tout à l'heure, mais ça cadrait sur leurs objectifs, c'est de favoriser la participation des citoyens à travers l'utilisation des nouvelles technologies. Donc j'ai postulé à cet appel à projet et ISIC a été retenu. J'ai eu un parcours d'incubation pour pouvoir mettre en place le projet pendant 6 mois, où j'ai eu l'occasion, pendant laquelle j'ai eu l'occasion de voyager en Afrique, plus précisément au Sénégal, au Togo, en Côte d'Ivoire, pour des partages d'expériences avec les autres pays. Donc ici, en gros, ici, c'est tout d'abord une initiative Civic Tech. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Civic Tech, c'est le fait donc d'utiliser les nouvelles technologies pour favoriser la participation citoyenne. ISIC, c'est une plateforme donc digitale qui permet de recueillir les besoins au niveau local pour pouvoir aider au mieux les décideurs publics à prendre des décisions plus éclairées dans leur choix de politique publique. Et comme c'est à Madagascar, donc il a fallu en fait créer une organisation pour pouvoir supporter ce projet-là. Donc ici, c'est à la fois cette initiative Civic Tech, mais c'est à la fois aussi une organisation qui promeut la participation citoyenne, l'éducation à la citoyenneté, au civisme et à la civilité, parce que je pense que c'est la base de tout développement pour chaque citoyen, que ce soit citoyen ou décideur public, de pouvoir en fait renforcer cette conscience, cette obligation en fait, en tant que citoyen, on a des droits, des devoirs et d'obligations envers notre pays. Et voilà.
D'accord, très clair. Alors, pour reprendre un peu dans l'ordre de ce que tu as énoncé, pour que ce soit bien clair pour tout le monde et pour moi aussi. Donc, tu dis que c'est une plateforme digitale, d'abord ISIC. Comment vous faites pour que ce soit accessible, du coup, à toutes les personnes? Parce que j'imagine que tout le monde n'a pas forcément accès au digital de chez lui, de sa propre maison, ou même à quelques mètres de chez lui. Comment vous faites pour que ce soit accessible, d'abord?
Alors, ISIC, j'ai oublié de le mentionner, mais ISIC est présent actuellement sur deux régions. Donc, on est à Antananarivo et on est aussi à Majunga. L'objectif, au tout début, c'était vraiment de pouvoir faire remonter les voix des personnes qui sont dans des petites villes, pas dans des grandes villes. On ciblait plus les communes, rurales qu'urbaines. Donc c'était ça le défi, et tu as complètement raison quand tu dis que pas tout le monde a accès à Internet. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a cette plateforme-là, mais dans une localité, par exemple, à Majunga, on a des antennes. On a des membres donc qui, je pense, la plupart sont des jeunes qui disposent du téléphone, des connexions. Et on a des activités en fait support, c'est-à-dire que au sein de notre organisation, on a une activité, un projet qui s'appelle Farpoulan. Ce projet-là consiste à organiser des cafés citoyens avec les gens de la localité. Donc les membres de ISIC viennent dans une localité, discutent avec les citoyens sur quels sont les besoins, quelles sont les problématiques dans votre localité. Et ensuite, tout cela va être rendu comme livrable. Donc, ce livrable-là, on va le mettre directement sur le site. Donc, les membres ajoutent donc ces initiatives-là sur le site et pour que les décideurs publics puissent voir qu'est-ce qui se passe dans telle ou telle localité. Et ensuite, dans la plateforme, il y a une option où tout un chacun peut y entrer et peut dire dans ma commune, on a des problèmes d'accès à l'eau, etc. Donc, ils remplissent un formulaire. Là, on travaille sur une option où on pourrait avoir des partenariats avec des cybercafés, par exemple, pour pouvoir vulgariser l'utilisation de la plateforme, ce qui est un gros travail à faire actuellement. Donc, on est dessus. On a adopté des stratégies pour pouvoir, pour que les gens puissent utiliser la plateforme partout à Madagascar. Le défi, tu as raison, le défi, c'est le fait de voir comment on accédera à des gens qui n'ont pas forcément la connexion. Quand tu parles d'accès à Internet, la plupart du temps, je ne sais pas quel est le chiffre actuel, mais on dit qu'on est dans les 10% de couverture en termes de connexion. Mais je pense que de telles initiatives comme ce qu'on mène actuellement peut améliorer ce taux-là, pour que les gens puissent en fait voir comment la technologie peut les aider. Si tu parles de Facebook actuellement, c'est déjà utilisé dans plein de villes par beaucoup de personnes. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est un travail vraiment de partenariat avec des acteurs présents sur certaines localités et essayer de promouvoir la Civic Tech, l'outil Civic Tech comme outil de participation aussi citoyenne à Madagascar, ce qui est un peu innovant, je pense.
D'accord, très clair. Et donc, une fois que tu rentres dans cette plateforme, tu disais que la personne, par exemple, peut dire « j'ai des problèmes pour accéder à l'eau, je remplis un formulaire ». Déjà, ma première question, la plateforme, elle est en quelle langue? Elle est en malgache?
Oui, donc la plateforme, on l'a fait en trois langues, malgache, bien sûr, français et on a mis anglais. Je pense que l'objectif, on a mis les deux autres langues, surtout l'anglais, parce que peut-être qu'on s'est dit, ben, peut-être qu'il y aura des organisations quelque part à l'étranger qui souhaiteraient, par exemple, aider certaines localités, parce qu'on voit souvent ça à Madagascar. Ou bien des villes ou des collectivités à l'étranger qui souhaiteraient participer à des projets existants dans telle ou telle localité à Madagascar. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir ouvrir la plateforme à un plus grand nombre. Mais le principal, c'est que cette plateforme, c'est pour les Malgaches à Madagascar. Et on a mis ça en langue malgache. C'était un peu difficile de traduire certains mots français en malgache, mais je pense que on avance petit à petit dans ce sens-là. Et si tu vois, actuellement, la plateforme est déjà disponible, sauf qu'on n'a pas encore lancé ça officiellement, vu qu'il y a encore quelques modifications à faire, mais elle est déjà disponible et on peut déjà l'utiliser.
D'accord. Donc, je suis citoyenne malgache, j'habite dans un village à Madagascar. Moi, j'ai des problèmes, par exemple, il n'y a pas forcément d'infrastructure pour que je puisse, comme tu dis, aller chercher de l'eau. Donc, je vais sur la plateforme. Est-ce que j'ai des thématiques? Est-ce que tu as des C'est classé par. C'est vraiment pour comprendre hein, la plateforme. C'est classé par quel type de thématique ou alors c'est libre. C'est moi qui choisis. Je remplis un formulaire et j'écris directement mon sujet.
Oui, c'est classé par thématique. Donc, quand on inscrit des projets ou des besoins dans le formulaire, en arrière, il y a des thématiques. Les thématiques sont classées selon les ODD, selon les 17, 17 ODD. Donc, c'est pour mieux, en fait,
ODD, ça veut
classer
dire
les...
quoi, Louvre?
Ah, oui, objectif de développement durable.
D'accord.
Donc, voilà, les 17 ODD des Nations Unies. Donc, c'est pour mieux classifier les besoins. Et les problèmes. Et ensuite, c'est pour mieux aussi, c'est de pouvoir en fait cibler, par exemple, si on parle de la question de l'eau, ben forcément, c'est le ministère de l'eau qui sera responsable de ce secteur-là. Donc, nous, actuellement, on travaille à ce que on essaie de créer un système pour que chaque besoin, par exemple, en termes d'eau, remonte directement au ministère ou aux organisations concernées. Et sur cette plateforme-là, c'est vu que c'est accessible à tout le monde, même les ministères ou les organismes rattachés peuvent s'y connecter et voir, ah ben dans telle localité, hein, il y a un souci d'eau, est-ce qu'on a des projets sur ça dans telle... Et ça aide en fait les décideurs publics à prendre plus de décisions s'ils voient que bon les citoyens participent aussi à cette prise de décision-là.
D'accord. Et donc là, c'est la grande question. J'imagine que, par exemple, dans une même commune, vous avez, je ne sais pas, 20, 25 personnes qui disent, voilà, on a des problèmes avec l'accès à l'eau. Vous, quelle est ensuite votre démarche pour faire remonter ce problème?
Alors, à part l'accessibilité de la plateforme à tout le monde, donc l'approche c'est aussi de nouer des c'est pas des partenariats, bon, disons des partenariats avec les entités publiques. Si je prends l'exemple de l'eau par exemple, si on a tel ou tel problème, nous ce qu'on va faire c'est on va faire du par exemple premièrement du plaidoyer auprès du ministère pour dire que bon ici qu'on a une plateforme qui permet de recenser des besoins que forcément vous ne savez pas parce que Madagascar est grand donc la technologie peut nous aider à recenser ces besoins-là. Vous pouvez les voir sur la plateforme. Ce qu'il faut préciser c'est que l'objectif c'est qu'on remonte des besoins. L'exécution du projet dépend des décideurs publics. Là, on ne peut pas dire, par exemple, que si une telle localité demande l'accès à l'eau des Bornes-Fontaines, par exemple, ici qu'elle ne peut pas dire à ses citoyens que oui, on va tout faire pour que pour qu'ils construisent ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est vraiment du plaidoyer auprès des décideurs publics pour dire que ce problème-là se répète dans cette localité. Est-ce qu'il n'y a pas des projets à mettre en place pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc c'est ça un peu le travail, c'est un peu difficile, d'expliquer ça aux citoyens qu'aux décideurs publics. Mais je pense que tout le monde est d'accord avec nous pour dire que pour résoudre un problème, il suffit pas de dire que c'est aux décideurs, mais vraiment de faire en sorte que tout le monde participe pour que ça soit plus inclusif. Oui.
D'accord. Mais vous, est-ce que vous avez un lien du coup avec la politique? Est-ce que vous faites partie d'un parti politique ou pas du tout? Vous êtes complètement neutre dans le monde politique?
Ah, la question qu'on nous pose souvent, oui. Non. Si on parle de la politique telle qu'on la connaît, non, on fait pas de la politique. On ne fait pas du tout de politique. On travaille avec les communes, peu importe l'étiquette politique de la personne qui dirige la commune ou qui est chef du quartier. On travaille toujours avec tout le monde. L'objectif, c'est vraiment d'apporter un changement systémique. C'est ça l'objectif. Si le maire, à un moment donné, il partira, parce qu'il va partir à un moment donné, donc s'il y a un autre maire qui va arriver, l'objectif, c'est que si le système marche, on va le garder, peu importe qui va être maire de la commune. Donc voilà, c'est ce qu'on a toujours évité, en fait, c'est que le projet soit assimilé à des revendications politiques, et surtout, là, on est en période électorale, donc là, on s'est fixé des barrières, on s'est fixé des limites à ne pas franchir dans nos actions. L'objectif, ce sont des activités, des projets au bénéfice des citoyens, au bénéfice des citoyens. Et tout ce qu'on va faire, ce sera dans cette optique-là, peu importe qui dirige la commune.
Et t'as pas peur que sur, enfin peur entre guillemets, mais tu penses pas que sur le long terme, ici, qu'elle va forcément avoir une étiquette politique, parce que finalement, si là vous êtes encore à la genèse du projet, si par exemple sur 20 ans, dans 20 ans, on rediscute toi et moi, on regarde toutes les actions que vous avez faites, peut-être qu'on va se rendre compte que vous avez suivi des actions plutôt de tel bord, ou vous avez suivi plutôt telles actions qui ont été demandées par telle personnalité publique. Tu vois, peut-être qu'un jour ou l'autre, ce sera le cas, non, tu penses pas ?
Là, jusqu'à maintenant, j'y ai pas pensé du tout. C'est vrai que on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ou 20 ans. Les choses évoluent aussi. Mais nous, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est que on essaie de... Parce que dans nos actions, ce n'est pas forcément au pouvoir public, aux décideurs publics de dire « J'aimerais que vous fassiez ceci dans notre localité. » Non, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment des projets de notre côté qu'on essaie de mettre en place dans une commune ou dans une localité. Maintenant, cela n'empêche qu'il y aura certaines personnes qui vont assimiler toujours ça à des questions politiques, comme quoi, si vous travaillez avec telle ou telle personne, vous êtes étiqueté telle ou telle entité politique. Je pense que on essaiera au maximum, en fait, au maximum. Je sais que ça va être difficile, mais on essaiera toujours d'être le plus neutre possible dans ce qu'on fait. Si tu vois le logo de l'organisation, c'est que tu vois ici qu'à la base, ce sont vraiment les citoyens qui sont à la base de nos actions. Donc voilà, en gros, je ne sais pas ce qui va se passer dans 10-20 ans. Si on va en rediscuter, je pense qu'il y aura des choses qui vont changer, mais cet aspect-là, je ne l'ai pas encore en vue en tout cas.
D'accord. Non, mais c'est important de le préciser, ouais. Parce que quand tu as une entité qui œuvre dans le service public, c'est toujours très compliqué de te détacher complètement des pouvoirs publics, finalement, parce que tu dépends complètement d'eux. T'es là pour renforcer la voix du peuple, donc tu renforces un peu la démocratie mise en place, mais pour l'exécution, comme tu le disais, tu dépends complètement des décideurs publics.
Oui, c'est ça. C'est l'exécution des projets, on n'a pas le budget pour faire une bonne fontaine, mais l'exécution d'un projet dépendra toujours des décideurs publics. Ce qu'on fait, c'est que on influence les décisions, on essaie d'apporter des données, parce que c'est ça aussi le souci, c'est que dans tel ou tel projet, la plupart du temps, c'est pas forcément basé sur des données à jour ou des données probantes. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'éclairer les décideurs publics, de les aider à prendre des décisions plus éclairées sur telle ou telle localité et que chaque projet s'adapte en fait aux réalités de chaque localité et pas seulement des projets politiques. Exemple, si je prends l'exemple, on le sait tous que pendant les périodes électorales, il y a des projets qui sortent de terre sous des étiquettes politiques, etc. Et après, quand cette personne-là n'est plus au pouvoir, ben, on laisse tomber le projet parce que ce projet était à telle ou telle personne. Donc, c'est ça qu'on aimerait éviter, c'est que chaque projet, vu que ça appartient à un citoyen, c'est les citoyens qui ont exprimé leurs besoins. Et si un jour ce projet-là voit le jour, ben, les citoyens, ils savent très bien que ce projet, c'était grâce à nous. Et ils sont plus jaloux, donc, de la chose publique. Voilà un peu l'idée, en fait, derrière tout ce qu'on fait actuellement.
D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous partager un exemple concret de projet ou d'initiative que tu as mené avec ISIC et qui a eu, en fait, un impact positif sur les communautés locales à Mada?
Alors, vu qu'on est, vu qu'actuellement on est, comme tu l'as dit, on a un an, je pense, mm-hmm. un an actuellement. Et le projet, je pense qu'il avance. C'est le projet qu'on est en train de faire avec la commune à Belubac. C'est que à Majunga, à l'ouest de Madagascar, c'est que on a lancé l'initiative, quand j'ai parlé de Farboulana tout à l'heure, c'est d'organiser ces cafés citoyens-là dans les quartiers de cette commune. Et donc, on a lancé les discussions avec le maire de la commune qui nous a grand ouvert la porte de sa commune pour pouvoir lancer le projet. Si tu parles de projet qui a impacté, là actuellement, je ne peux pas encore le dire parce qu'on est en phase donc, de mise en place de ce projet-là. Peut-être que dans l'année prochaine, si on en rediscutera ou dans 2 ans, 1 an, je peux te donner ce projet-là, quels sont les impacts qu'on a eu, les objectifs, etc. et les résultats. Mais ça prend du temps. Et ça aussi, ça prend du temps parce que mettre en place de tels projets, ça prend beaucoup de temps. Si tu discutes avec la commune ou les citoyens, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. On avait notre planning à nous au tout début, mais quand on est vraiment sur terrain, on s'est heurté à beaucoup de choses. Donc là, on est obligé de revoir le planning, etc., les actions, etc. Donc, espérons que l'année prochaine, après les élections, donc espérons que tout se passera bien.
D'accord. Et si, par exemple, nos auditeurs veulent participer à ISIC ou veulent eux aussi donner leur voix, comment ils peuvent le faire?
Oui, alors participer à cette action, nous, on a reçu au tout début, quand on a créé ISIC, on a beaucoup reçu de sollicitations de plusieurs villes, de plusieurs régions pour nous dire quand est-ce que vous allez vous implanter aussi dans notre localité, etc. Mais on s'est dit que bon, on devrait se focaliser sur ces deux régions-là. Mais s'il y aura des gens qui aimeraient participer à cet effort de renforcement de la participation citoyenne à Madagascar, soit ils peuvent nous envoyer un message ou un email pour manifester leur intérêt, pour mettre en place donc une antenne dans leur localité, ou bien participer également à l'utilisation de la plateforme. C'est déjà une façon de participer à nos actions. Utilisez au maximum si vous avez des besoins ou des problèmes dans votre localité, si vous apercevez qu'il y a des soucis, vous pouvez utiliser la plateforme et comme ça, on verra tel ou tel problème dans telle ou telle localité. ISIC compte s'implanter dans plusieurs villes de Madagascar et s'il y a des gens qui veulent participer, la porte est grande ouverte. On est là pour vous accompagner, pour vous aider également à mettre en place ISIC dans votre localité.
D'accord, parfait. Donc sur Internet, on peut vous trouver sur le site, j'imagine?
Oui, on a un site web, donc c'est www.isica.io. dans lequel vous aurez un bouton à côté où il y a plateforme, la plateforme, si vous voulez accéder à la plateforme, donc vous y allez dedans. Mais le site web où vous allez voir toutes les informations concernant l'organisation, concernant aussi tout ce qu'on fait actuellement.
D'accord, super, super. Bon, je suis allée sur le site, c'est facile à trouver. Donc, en tapant sur Google, directement ou dans la barre de recherche issika.io, vous trouverez facilement. Bah, écoute, super. C'était une discussion très intéressante parce que je pense que c'est bien de mettre en valeur aussi ce genre d'initiative parce qu'en général, quand tu parles digital, ça parle pas à tout le monde. Donc, c'est bien aussi de montrer que le digital a aussi l'ambition de résoudre des problèmes à échelle nationale. Donc c'est vraiment un très beau projet. Je te souhaite beaucoup beaucoup de réussite.
Merci beaucoup. En tout cas, tu as raison. Le digital pour des pays comme Madagascar, je pense que on a cette occasion de faire du digital un outil qui nous permettra de faire avancer le pays. Faute de moyens, on sait tous que dans un pays, on n'a pas forcément les moyens nécessaires. Par exemple, pour voyager, si moi je veux voyager à Diego, c'est un peu loin pour moi, mais le digital peut nous aider en fait à améliorer les choses. C'est quelque chose de nouveau, comme je l'ai dit, la Civic Tech à Madagascar, c'est nouveau, on est peu à travailler dessus, mais j'espère en tout cas que ça va se développer et que on aura un écosystème avec la Civic Tech qui nous permettra vraiment d'apporter du nouveau, du frais pour notre pays.
Très bien, alors merci beaucoup. Alors pour terminer, Louva, j'ai trois petites questions pour toi. Donc la première, c'est est-ce que tu pourrais me donner une expression qui revient toujours à Madagascar et qui, selon toi, reflète très bien le pays?
Une expression. Alors, s'il y a une expression, c'était l'expression après la CAN 2019, si tu vois, quand tu dis Alifa
Allez, va.
Barea, Alifa Barea, ça revient tout le temps quand tu fais des choses. On te dit, par exemple, avec ce projet-là, on me dit Alifa Issik. Donc, c'est vraiment une expression actuellement qui montre l'état d'esprit, comme quoi on peut avancer dans ce qu'on fait. On n'est pas obligé de faire de gros projets pour avoir de l'impact. Il faut commencer petit, ici qu'à commencer petit. Et ce que je recommande en tout cas à la jeunesse malgache, c'est voilà, ne pas penser que il faut toujours faire de grandes choses pour pouvoir développer le pays, faire des petites choses qui ont plus d'impact en tout cas et dans lesquelles tu te reconnais. Donc, Alifa ici, qui a Alifa Malabar, ça c'est vraiment l'expression en vogue actuellement.
Super. La deuxième question, quel est ton endroit préféré à Madagascar?
Mon endroit préféré à Madagascar. Alors, l'endroit, c'est. Il y a à Majunga, parce que je passe souvent à Majunga, la plage à Ntsanti. Ntsanti, il y a une plage où personne n'y va. N'y va, mais c'est une plage vierge.
D'accord.
C'est tout beau, la mer elle est bleue. Donc là-bas, des fois, quand j'ai le temps, j'y vais pour réfléchir un peu sur ce que je fais, pour prendre un peu du recul et voir les choses autrement. Donc ça, Ntsanti, pour moi, c'est un endroit magnifique. Si tu passes à Majunga, je te le conseille, je te le recommande vivement.
D'accord, super. Et la dernière question, quel est ton plat malagas favori?
Ah, ben, le raviolis de Senoksou, c'est la base. Ça, c'est
C'est
la base.
beaucoup revenu, c'est beaucoup revenu.
Ah oui, je pense que ça, pour moi, c'est d'habitude, tous les dimanches avec la famille, on a ça comme plat. C'est bon. En plus, je pensais pas que on avait ce plat-là aussi en Afrique, parce qu'en Afrique, ils faisaient aussi du feu de manioc pilé. Je ne sais pas comment ils appellent ça, mais c'est très bon. Et ça c'est mon plat favori ici au pays.
D'accord. Et ma dernière question, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais partager aux auditeurs, un sujet qu'on n'a pas abordé ou un message que tu aimerais passer aux auditeurs de Malabar?
Oui, j'aimerais passer un message réellement, vraiment sur la notion d'échec. Et je pense que ça, c'est un truc que j'ai, c'est une expérience que j'ai eue quand j'étais à l'étranger, l'échec. Nous, les Malgaches, on n'a pas forcément une meilleure conception de l'échec. On ne nous a pas appris à comment gérer l'échec quand tu fais quelque chose dans ta vie. Et moi, personnellement, j'ai eu beaucoup d'échecs dans mes projets personnels, mais ce qui ne m'a pas empêché de progresser. Mon message, c'est que, à la jeunesse surtout, c'est oser faire des choses. Si vous échouez, ben vous le refaites. Voilà, vous apprenez les leçons, vous gardez votre objectif, mais vous changez votre plan, vous changez d'itinéraire, mais vous garder l'objectif. Donc voilà, il faut savoir apprendre de nos échecs aussi. C'est pas une fatalité, l'échec, c'est pas une fatalité, mais ça te permet aussi d'avancer et de faire des petits pas ensemble pour arriver après à ton objectif. Voilà en gros le petit message que j'aimerais passer.
Très bien, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Louve. Je trouve que c'était une très belle discussion. C'était vraiment j'ai apprécié vraiment cet échange et vraiment du fond du cœur, je te souhaite de continuer ici parce que je pense que c'est une très belle initiative. Et du coup, je vous souhaite beaucoup de réussite.
Merci beaucoup, Samba. En tout cas, merci pour le soutien. Et ça, vraiment, ça fait chaud au cœur parce que quand tu entends que quelqu'un de l'autre bout du monde, en Europe, voit ce que tu fais, donc je suis vraiment flatté, en tout cas, quand tu m'as invité. Et j'espère aussi que Malabar va continuer à faire émerger des gens à Madagascar ou ailleurs qui participent vraiment au développement du pays. Donc je te remercie, je remercie nos auditeurs qui nous écoutent. Et voilà, je suis là si tu as besoin de moi, si on veut discuter d'autres choses, je suis disponible.
Super, super. Ben merci Louvre et puis à très bientôt.
Merci beaucoup, Samvach. À très bientôt.
L'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Malabar, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une aventure à travers Madagascar. Ce podcast, c'est également le vôtre. Alors si vous souhaitez partager votre histoire ou si vous connaissez quelqu'un qui mérite d'être entendu, n'hésitez pas à nous contacter sur malabar.fr ou sur LinkedIn, Saint-Batch Rappé Farnouche. Ensemble, continuons à explorer les joyaux cachés de Madagascar. Amanarakanjeyo, velum!